Bienvenue dans ce temple maçonnique à l'occasion de cette deuxième journée de la 10e édition des Imaginales maçonniques et ésotériques épinales. Avant de débuter, je vous demande de couper vos portables pour ne pas perturber l'intervention de Laurence Vanin. Au programme aujourd'hui, 7 interventions seront présentées en ces lieux, puis 5 demain dès 10h. Durant le week-end, de prestigieux intervenants se succéderont et traiteront d'un thème de réflexion intitulé « Rituel au singulier et rituel au pluriel ». Dans ce cas, nous avons donc le plaisir et l'honneur de poursuivre cette riche et longue journée en recevant Laurence Vanin. Laurence Vanin est une habituée des Imaginales et des lieux puisqu'elle est une fidèle participante aux Imaginales et aux Imaginales maçonniques et ésotériques d'Épinal. Vous pouvez la retrouver notamment sous la bulle au livre qui regroupe tous les auteurs. Elle pourra vous dédicacer et vous présenter son dernier titre qu'elle présente ici pour la première fois et qui est intitulé « L'âme sereine, la vulnérabilité heureuse ». C'est toujours un plaisir d'échanger avec Laurence. Alors évidemment, il me faudrait beaucoup de temps pour présenter Laurence Vanin, mais nous possédons qu'une heure, et pour cette conférence, je vous renvoie vers son site internet, laurencevanin.fr, sa chaîne YouTube, si vous voulez visionner des conférences qu'elle anime, et son Facebook, si vous voulez également poursuivre son programme et ses interventions, et pour obtenir sa présentation complète, ses blogs, sa biographie, bref, l'ensemble des informations nécessaires pour mieux la connaître et découvrir son univers. En quelques mots, je vous la présenterai rapidement de la manière suivante. Femme aux multiples talents et facettes, docteur en philosophie politique et épistémologie, philosophe, essayiste, auteur de nombreux articles scientifiques, directeur de collection, chercheuse, enseignante à l'université, conférencière et chroniqueuse. En dehors de ses activités scientifiques, elle anime des pouces philo et forums destinés au grand public. Ses ouvrages ont rencontré un fort succès. Elle prône une philosophie de terrain, où la raison, l'action et l'expérience sont intimement corrélés. Son langage est clair, ponctué d'anecdotes, riche de réflexions, de recherches, de passion, d'humanisme et de spontanéité. À chaque fois, sans notes comme aujourd'hui, avec beaucoup d'aisance, et nous entraîne et nous éclaire, avec son style si personnel et passionnant, avec un succès qui n'est jamais démenti, à l'instar de cette salle qui est remplie. Pour mémoire, lors de ses dernières interventions aux IME, Laurence Vanin avait abordé en 2019 l'humanisme à l'heure de la Smart City, en 2020 qu'est-ce qu'être sceptique, en 2021 du chevalier au robot chevaleresque serviable, repenser l'altérité et la fraternité, et l'an dernier, il nous avait parlé d'un petit ours initiateur à un morceau de bois brut ou comment sculpter son moi. L'an dernier, Laurence Vanin nous avait démontré que l'on s'aperçoit que le conte, par-delà son apparente naïveté, veut bien dire plus de choses qu'il ne dit. Les travaux d'analyse de Laurence Vanin révèlent que les mythes, les contes et les légendes doivent être déchiffrés au moyen de certaines clés, et Laurence Vanin possède un véritable trousseau de clés qui nous ouvre toujours de belles portes. Cette année, son intervention est titrée « Rituel » quand l'initiation est mise en scène dans les contes. Des nouvelles clés vont nous être livrées sans aucun doute. Pardon. Je laisse maintenant la parole à Laurence Vanin pour 45 minutes, puis suivront une quinzaine de minutes de questions-réponses. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Ça fonctionne ?
Oui, ça fonctionne.
Écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. J'ai intérêt d'être à la hauteur de ce qui vient d'être dit, sinon je ne serai peut-être pas invitée l'année prochaine. C'est jamais. En tout cas, je suis très très heureuse de vous retrouver. J'ai réalisé, on en parlait ce matin au petit déjeuner, ça faisait 10 ans que je venais ici, aux Imaginales. Et donc c'est vrai que ça commence à faire une décennie. Ce qui ne nous rajeunit pas, enfin, en tout cas moi ça ne me rajeunit pas, vous rajeunissez d'année en année, mais moi non. Et je me dis, bon, c'est extraordinaire ce parcours, cette relation qui se nourrit d'année en année, avec en même temps, j'ai envie de dire, tout le temps du manque aussi, puisqu'on se voit 2-3 jours. Et pendant un an, on ne se voit plus du tout. Et puis quand on se retrouve, on a l'impression qu'on s'est quitté hier. Donc c'est quelque chose d'assez magique, en fait, tout ça. Je trouve que c'est une belle initiative que ces Imaginales maçonniques. Et je trouve que c'est vraiment un moment où on peut se retrouver en toute sérénité. Voilà, ça rejoint le titre de mon livre, mais voilà, en toute sérénité. Alors pour vous parler de mon sujet qui renvoie au rituel, alors j'ai mis rituel un peu par provocation. C'est-à-dire j'ai répété 2 fois le mot en me disant, bon, rituel, ça suffit de rituel, en fait. C'était ce que je voulais dire. Puis en même temps, je me suis dit, oui, mais le rituel, à quoi sert-il? Quelle est l'utilité exacte? Et pourquoi on met en scène, en fin de compte, le rituel? Et à quoi ça nous sert? Surtout que lorsqu'on réalise que les contes que l'on lit dans son enfance ne sont pas des contes pour lesquels on a forcément un esprit suffisamment affûté ou aiguisé pour comprendre la réalité de ce qui veut nous être enseigné, je veux dire simplement, ben c'est vrai qu'on est comme paradoxalement happé par l'histoire et par la façon dont tout est construit. Et je trouve que la mise en scène dans le conte, c'est quelque chose qu'on oublie parce que la pièce de théâtre, on la met en scène. Le conte, on ne le met pas en scène. Le conte, on en fait éventuellement un film où on raconte le conte en soi. Ou alors, on peut en faire une pièce musicale, ça peut être le cas. Je veux dire, on n'en fait pas quelque chose qu'on réinterprète. Parce que tout est donné, en fait, dans un conte. C'est nous, lecteurs, qui devons nous réapproprier, et c'est une histoire personnelle. Et c'est déjà là que j'ai envie de dire que c'est une initiation, parce que tout franc-maçon qui a été initié vous dira qu'il ne peut pas vous raconter son initiation. Quand bien même voudrait-il être bavard, il ne pourrait pas le faire. Et c'est la même chose que c'était Alexandre Dumas, qui un jour veut expliquer à un ami qu'il a mangé un ananas, et que son ami lui dit « mais ça a le goût de quoi ?» Et il écrit une lettre à son ami qui fait 9 pages de description du goût de l'ananas. Et bien pour avoir lu les 9 pages, c'est vrai qu'en ayant goûté l'ananas, j'avais l'impression que j'avais un morceau d'ananas dans la bouche, mais quand je réfléchis, je me dis « oui, mais pour celui qui n'a jamais eu l'expérience, eh bien, ça devait être complètement surréaliste de recréer le goût de quelque chose qu'on n'a pas goûté. » Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir être le maçon bavard. Je dis le maçon bavard avec bienveillance. Hein. C'est le maçon qui aurait envie de narrer son histoire, narrer son initiation, narrer son parcours, et qui se rend compte qu'à un moment donné, ben, il est limité parce qu'en face de lui, soit il y a du non-maçon, donc normalement il faut qu'il se taise, soit il y a du maçon, et en réalité, même si on est tous bienveillants, les uns envers les autres, ben, malgré tout, l'histoire que vous me racontez, ben, ce n'est pas la mienne. Je vous écoute, je la comprends, je la transpose par analogie par rapport à ce que je suis, et comme ce n'est pas la façon dont moi j'ai vécu mon initiation, ben, bien évidemment, nous partageons une expérience que nous avons vécue séparément et que nous avons pensée séparément. Et c'est là qu'il y a peut-être une magie dans le rituel, c'est que le rituel fait de l'initiation quelque chose qui réunit ce qui est épars. Et c'est épars parce que nous le vivons individuellement. Et que là, à un moment donné, les mots ne sont pas suffisamment éloquents pour pouvoir partager avec exactitude le fruit de l'expérience. Et moi, ça, j'en suis revenue, hein, de la raison qui résonne, de cette philosophie qui semble pouvoir tout dire. J'en suis revenue parce que finalement, je suis dans une philosophie, tu l'as très très bien dit, pragmatique, en prise avec un terrain, et la prise l'adhésion, l'adhérence qu'on a avec le monde, et des fois même on se heurte au monde, c'est quelque chose que l'on peut ressentir de manière intime et qu'on ne peut pas révéler. Et donc toute expérience vécue tombe dans l'aporri du mot quand on veut la narrer. Donc sachant ça, celui qui écrit un conte se dit, comment fédérer autour d'une histoire des enfants comme des adultes, parce qu'avant de lire, le petit enfant n'est pas capable de le faire, donc c'est le père ou la mère qui, ou un membre de la famille, on va dire, ou un ami ou un instituteur, peu importe, quelqu'un qui va lire pour lui. Et le fait qu'on lise pour quelqu'un, on lui transmet avec des mots quelque chose qu'il se réapproprie complètement et qui ouvre des imaginaires. Et ce qui est intéressant avec le conte, c'est qu'il peut être lu à n'importe quel âge de la vie, puisque le conte ouvre en permanence à une réinterprétation, si on veut dire scientifiquement, mais surtout ouvre en permanence à une réappropriation d'une expérience qu'on renouvelle à chaque fois. C'est comme si on allait manger plusieurs fois dans le même restaurant, mais comme on ne mange pas le même plat, et bien finalement ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur, c'est pas le même moment. Et un conte, c'est ça la magie. Et donc mettre en scène dans le conte quelque chose qui nous initie, et bien c'est d'une certaine manière nous rappeler à nos fondamentaux et ouvrir, comme dirait Ricoeur, à ce qu'on appelle de l'herméneutique. L'herméneutique, rappelez-vous, c'est le fait que quand on a un mot qui renvoie à un symbole, et bien une fois qu'on a expliqué le symbole, on n'a pas fini. Souvent les gens se disent, ben voilà, j'ai traduit le mot, ça suffit. Non, on a traduit un mot, on en a fait un symbole, et ça y est, le symbole peut commencer à travailler dans nos esprits. Il travaille de telle manière qu'il est toujours un symbole inachevé. Il est toujours perdu, le symbole. Il finit toujours au fond du puits. Le caillou qu'on jette, c'est la pièce qu'on jette dans la fontaine, c'est la clé qu'on jette, c'est ce qu'on jette au fond d'un puits, et qui, une fois qu'il a touché les profondeurs, tourne le dos finalement au sens. Vous voyez, si on dit qu'on veut le sens du monde, si vous vous couchez par terre, le sens qui vous appuie, il est dans votre dos. Donc vous regardez un monde en oubliant que le sens qui vous porte, il est dessous. Donc le mythe, c'est ça. Le conte, c'est ça. C'est ouvrir un point de vue, ou en tout cas, nous montrer dans un certain sens ce qu'on doit regarder de l'autre côté. Et ça, pour pouvoir entreprendre cette démarche de conversion du regard, de conversion d'interprétation, et même de réappropriation du symbole qui n'est toujours qu'ouverture, eh bien, ça nécessite des années de lecture, de relecture, de réapprentissage, et c'est ce qui est finalement enthousiasmant. J'ai dû lire, je ne sais pas combien de fois, Le Petit Prince, je ne sais même plus, en fait, pour tout vous dire, et à chaque fois que je le lis, je le redécouvre. Et c'est très bien comme ça. Et du coup, on aime oublier ses livres. Voilà. J'ai relu dernièrement Jonathan Livingstone au Goéland. Je me rappelle, je suis asthmatique, avoir été enfant, malade comme ce n'était pas permis. La seule chose qui me sauvait, c'était Jonathan Livingstone, le Goéland. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Eh bien, c'était le seul conte dans lequel un oiseau prenait de l'air et s'envolait. Et pour quelqu'un qui s'étouffe, eh bien, prendre l'air avec un goéland, eh bien, ça y est, vous reprenez votre rythme et vous commencez à recaler les mots sur une respiration qui fait que les mots vous ne les dites pas puisque vous êtes trop essoufflé pour pouvoir le faire, mais en même temps vous reprenez possession de votre corps et vous vous contrôlez. Et donc ça veut dire que le mythe fonctionne comme ça, le conte fonctionne aussi comme ça, par allégorie, par symbole, par rythmique et par réappropriation. Alors il y a des contes qui sont plus marquants que d'autres et qui nous placent directement dans une forme de rituel qui nous initie. L'année dernière, je vous avais parlé de Winnie l'ourson. Rappelez-vous, ce petit ours qui se tape toujours sur la tête, pense, comme s'il était Socrate, qui ne connaît rien et qu'il faut qu'il se réapproprie. Et il y a un moment, c'est vers la fin du livre, en fait, la fin de l'histoire, comme le petit garçon, Christopher Robin, grandit et qu'il va laisser son monde de l'enfance, il veut faire un cadeau. Souvent, dans le conte, l'initiation commence au moment où on vous fait le cadeau. Et là, il fait un cadeau à l'ourson. Ils partent tous les deux, parce que l'ourson, on sent qu'il y a une dramaturgie qui se noue, parce qu'on est dans le débonnaire, on chante, on se promène, on cherche les petits pots de miel, il y a l'appel de la forêt, enfin, voyez, on marche boum, 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 et puis quand vous remettez dans la musique, oui, nise, pou, enfin, on dandine, on fonctionne comme ça, on est dans une rythmique du mot qui nous amène à une forme de légèreté, sauf qu'on sent qu'il y a une tension dramatique, puisqu'on en arrive à la fin. À un moment donné, son ours en peluche, on le laisse dans un placard parce qu'on a grandi. Et donc, on sent cette tension dans le livre, et ce qui est intéressant, c'est que pour faire un cadeau, Christopher Robin dit à l'ours, nous avons marché au creux du vallon, c'est un lieu qui pour lui est l'écrin de verdure, et c'est là, on voit l'image, elle est représentée par Mine, qui est l'illustrateur de Shepard, qui a écrit Winnie l'ourson. Et Shepard se retrouve dans la situation où il met en scène l'ours qui est adoubé avec une épée, au creux du galon. Le creux du galon, c'était un endroit où finalement il y avait des galons, c'était une allusion à des galons qui avaient été, enfin des bateaux qui avaient été coulés du temps de la grande armada espagnole. Donc c'était une allusion à ce qui était le trésor enfoui. Et en même temps, cette façon d'adouber, c'était une manière de dire « Ça y est, maintenant, mon ours, tu m'as initié à la vie. Maintenant, moi, je t'adoube puisque je te donne ton titre de ours qui a fait son travail, en fait. » Et donc, à ce moment-là, il y a une phrase absolument merveilleuse, bien sûr, il le nomme comme ça et on sait que c'est le temps des adieux. Et le petit ours dit « Tu crois que... tu vas vivre 100 ans ?» Et Christopher Robin lui répond « Oh oui, certainement, 100 ans. Oh oui, je vivrai bien 100 ans. » Et là, l'ourson lui répond « Ben moi, j'aimerais bien vivre 100 ans moins une seconde pour pas avoir à vivre ta mort. » Et donc, on prend conscience que finalement, toute notre enfance et toute notre construction se fait par du lien. Nous tissons des liens et nous faisons nos cordes à nœuds. Et tout le reste de notre vie passe par l'expérience de la perte, des nœuds qui se défont et qui, à un moment donné, font que soit on est autonome et on vit, soit c'est une sorte de fin en soi. Et donc, il faut savoir lâcher prise, comme diraient des coachs de bien-être. Il faut savoir lâcher ce que l'on ne peut pas retenir. Et donc, on se retrouve comme ça, vous voyez, tout simplement, un petit ours adoubé qui vous ramène à ces fondamentaux-là, que l'enfant, sur l'instant, ne conçoit pas, sauf qu'il a bien compris que l'ours, on va le laisser. Parce qu'on va aller à l'école, parce qu'on va à la grande école, et qu'il faut être, il faut avoir la force de tous ces abandons. On a un autre moment aussi dans le conte qui est très porteur, c'est quand vous lisez Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Rappelez-vous, il y a toute une mise en scène du monde, la cruauté du monde au début, avec un serpent bois qui fait une espèce de fauve. Voilà, la cruauté, elle est là, on l'a compris, c'est le nazisme, c'est bien des choses. Et on se retrouve avec une destinée qui est contrecarrée complètement. Moi, j'aurais voulu faire du dessin, je fais un dessin, le dessin, il n'est pas reconnu. Tout le monde pense que c'est un chapeau, alors que c'est un serpent bois qui a avalé un éléphant. Longtemps, je me suis dit, mais serpent bois, bon, j'ai quand même élucidé tout ça, mais... Ce qui est surtout intéressant, c'est quand on arrive au moment où il y a la fracture, la rupture avec le monde. Et vous voyez, on était tombé dans un creux où on adoubait un ourson. Là, on tombe dans un creux qui est la chute de l'avion, qui tombe en plein désert. Il faut savoir que faire son désert au Moyen-Âge, c'était faire son ergue. Et son ergue, c'est un terme qu'on emploie dans le désert pour définir un endroit où il n'y a plus d'eau et tout est asséché. Donc, on est en train de rentrer en soi dans une situation où l'humanité s'est appauvrie, asséchée, comme lyophilisée. Moi, j'aime bien dire quand les gens me saoulent trop, j'ai dit que vous m'avez lyophilisée. C'est même pas pomper mon aile, c'est lyophilisée. Je suis en poudre, là. C'est-à-dire, laissez-moi. Le monde nous amène à une forme d'état de... C'est même plus les particules. Ils nous ont détruits, d'une certaine façon. Et toute la subtilité va être de trouver non pas un réenchantement, mais quelque chose qui peut nous réabreuver. Il faut retomber dans une ressource, en fait. Trouver une ressource qui, en soi, permet d'alimenter quelque chose qui était déconstruit pour le reconstruire. On travaille sur l'expérience de la recomposition. Tout le conte de Saint-Exupéry nous ramène à un mouvement de balancier entre un pilote qui est tombé, qui fait son désert, qui dit lui-même, je fis l'expérience d'une panne en plein désert. Voilà, ça veut dire que je me retrouve seul avec moi-même, dans mon introspection, prisonnier d'une situation dont je ne peux sortir. Arrive à ce moment-là une petite voix, et il dit d'ailleurs, quand le mystère est trop grand, on ose désobéir. Cette petite voix me demande de dessiner un mouton, rien à voir avec ma situation en gros. Et là, on marche progressivement, on a un travail de translation, et au moment où on marche d'un point A à un point B, on a l'impression que quelque chose est très linéaire. En fin de compte, on nous ressasse, on nous raconte des passages avec des astéroïdes, quelque chose qui serait plus de l'ordre de, on va dire, de quelque chose de cyclique, on va dire. Et là, on comprend que dans ce mouvement, on roule comme le balancier d'un pendule, avec quelque chose de cyclique presque en spirale qui pourrait être compressé, ça donne une tension vers l'extérieur, c'est-à-dire le désir. Le désir, c'est comme un ressort comprimé. Quand on le lâche, on bondit. Eh bien, c'est ces deux mouvements qui doivent s'intercroiser. Et quand ils s'intercroisent, on comprend le sens du conte. Et on le comprend quand Saint-Exupéry arrive près d'un puits, il dira une fontaine, qui se retrouve avec un petit prince, avec un petit serpent, qui est celui de la régénération, en gros, puisqu'on comprend bien que c'est mourir à une conception ou une vie pour renaître dans une autre. Et on comprend qu'à ce moment-là, tout refait sens. La planète, la rose... le risque des épines, le risque du mouton qui peut manger la planète ou la rose, etc. Donc on comprend qu'il y a une sorte d'ultimatum à celui qui se laisse embourber dans une introspection stérile. Il lui faut trouver quelque chose en soi pour ressortir. Et là, on fait les expériences de Plotin, les Énéades, les 9 paliers de descente en soi, où on nage dans un marasme complet, on est dans le côté boueux, nous dira notre ami Plotin. Et une fois qu'on a trouvé ce qui est le plus pur en nous, eh bien nous sommes capables à nouveau de refaire surface. C'est le moment où Bergson dit « il faut savoir vivre dans la durée », parce qu'il dit que dans la durée, nous avons cette espèce de frémissement intérieur fabuleux, et ce frémissement intérieur fabuleux nous ouvre à quelque chose qui nous est propre, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, quelque chose qu'on ne peut pas partager. D'ailleurs, il dit « la durée, Ça, c'est dans l'évolution créatrice, page 9, il vous dit, voilà, la durée, c'est le progrès continu du passé qui gonfle en avançant et ronge l'avenir. Voilà. Après, on regarde dans les rétroviseurs. En gros, voilà, je suis dans un monde où les mots, bien souvent, sont là pour dire l'insignifiant. Les mots sont là pour rompre avec le malaise du silence. Vous savez, rentrer dans une salle d'attente, vous avez un bonhomme en face de vous qui vous regarde là avec des yeux glauques. Excusez-moi, messieurs, vous n'êtes pas tous à regarder avec des yeux glauques. Mais... Voilà, il ne vous connaît pas, il est face à vous, il vous fixe, alors vous ne savez pas s'il vous voit, s'il ne vous voit pas, mais vous êtes très mal à l'aise. Et donc, à un moment donné, vous allez faire « Ah ben, il fait froid aujourd'hui, hein, vous allez sortir un truc, n'importe quoi, la phrase qui rompt avec l'indiscrétion du silence. » Et je suis sûre, messieurs, que c'est pareil. Si vous avez mademoiselle qui vous regarde comme ça, vous devez être un peu gêné, surtout si votre femme est à côté. Et donc, il faut rompre avec l'indiscrétion d'un silence. Et donc, on se rend compte comme ça que le langage a ses propres limites et qu'il faut à un moment donné recoïncider avec soi. Et personne ne nous dit, c'est pas à la surface, dans le tumulte des passions, c'est un peu Saint-Augustin, il faut pouvoir redescendre en soi pour de nouveau adhérer avec la mélodie intérieure, le mouvement intérieur et la rythmique intérieure, puisque la musique est une mathématique qui ouvre à deux choses. Un, l'esthétisme. Deux, la discipline. Et le conte, c'est ça, c'est une mélodie intérieure qui ouvre à l'esthétisme et à la discipline. Dans chaque conte, on vous apprend quelque chose. Quand on est enfant, on apprend qu'on doit aimer ses petits camarades. On apprend qu'on doit faire sa BA. Il y a toujours quelque chose qui parle au monde de l'enfance. Et puis une fois qu'on a quitté le monde de l'enfance, ben on comprend que les contes nous enseignent et nous apprennent, en quelque sorte, à sortir, on va dire, d'un certain degré des choses, presque d'une médiocrité du monde. Voilà. Et donc, ben, il faut entreprendre une grande aventure. Et c'est ça le rituel, la mise en scène du rituel. Si vous abandonnez cette idée que cette mélodie intérieure vous appartient, ça veut dire que vous entrez dans la symphonie pour moi. La symphonie, c'est fabuleux, mais il faut savoir tenir sa partition. Si au moment où vous jouez, vous avez la partition du clarinettiste et que vous vous faites embarquer par la partition du piano, vous vous êtes largué complètement. Ça veut dire que dans le conte, on réapprend aussi ce qui nous permet de nous réajuster. Et quand on joue dans un orchestre, on sait très bien qu'on a une mélodie à jouer. Et cette mélodie, Bergson nous dit que c'est la mélodie intérieure qui renoue avec le rythme de notre intériorité et qui nous force à la discipline. En musique, la discipline, on la saisit, on la comprend au meilleur moment. D'ailleurs, chaque année, moi, tout le monde se moque de moi, mes collègues se foutent de moi littéralement. Il ne faut rien me demander le jour où il y a des célébrations militaires qui passent à la télévision. Pourquoi ? Et mes voisins doivent être ravis, je vais à fond la musique militaire et je marche. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est salutaire de marcher ou pas. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous allez vous dire, elle est bonne pour interner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Toute l'année, je peux avoir une pensée qui divague. Toute l'année, je suis dans la liberté absolue. Je peux danser un tango enflammé, je peux danser une rêve partie, machin, je peux être dans mon ziva avec mon rap, je peux faire ce que je veux. Ok, le seul moment où je me discipline, c'est la marche militaire. Et vous y êtes, et vous marchez, et ça y est, le porte de tête. Ça veut dire qu'à un moment donné, la marche au pas, c'est hallucinant ce que je vous dis, hein, mais c'est une marche qui contraint à une discipline qui fait égrégore. Si vous ne marchez pas au pas, vous en mettez dans le rang du devant ou le rang derrière. Et c'est très difficile de marcher au pas. Chaque année, je fais ça, pourquoi ? Parce que quand vous écoutez les plus grands contes, y compris les contes philosophiques, y compris le plus grand conte philosophique qui puisse exister, le « Ainsi parlait Zarathoustra » de Nietzsche, il est écrit sur le tableau de la 9e symphonie de Beethoven. Si vous lisez le « Ainsi parlait Zarathoustra », il faut mettre la 9e. Et à ce moment-là, quand vous lisez, vous avez un rythme qui vous est propre. Et là, vous revenez à vos fondamentaux. Tiens, j'ai connu dans mes lectures, je ne me suis pas égarée, mais j'ai rencontré un certain type qui s'appelait Aristote. Et cet Aristote me disait, il faut philosopher en marchant. Qu'est-ce que ça m'apprend, philosopher en marchant ? Je dois tout le temps marcher, je dois rythmer mon souffle à mon corps que je discipline et à ma pensée qui ne doit pas dire n'importe quoi à ce moment-là. Si vous avez essayé, moi je l'ai fait le matin, à l'aube en plus. Pas, comme dirait Victor Hugo, à l'heure où blanchait la campagne. Hein. Mais à l'aube, je suis allée marcher et j'étais avec des copains. Et la tendance est de s'arrêter et de commencer à tailler la bavette au coin de la rue. Pas du tout. Il faut en permanence marcher et dire des choses intelligentes. Plus dur. Allô. Donc, voilà, vous avez une discipline dans le conte qui se fait musicalité. Une musicalité qui fait que bien souvent, regardez quand vous... Je vous parlais du livre de la jungle. Le livre de la jungle, qui n'a pas eu le disque du livre de la jungle? Qui n'a pas marché sur le son et la rythmique de la marche des éléphants? Voilà, moi j'avais mon mange disque quand j'étais petite, je le passais en boucle ce truc. Voilà. Et je me faisais éléphant. Et je trouvais ça génial. Et c'est certainement là que m'est venu le goût de la marche militaire. Parce qu'en fait, quand vous lisez le livre de la jungle, vous avez plusieurs phases d'une initiation. La première, c'est quand il y a la réunion des loups et qu'on est en train de décider est-ce que oui ou non, on accepte dans le clan le petit dôme. Est-ce qu'on autorise la louve à conserver l'enfant? Est-ce qu'on autorise à un moment donné une violation d'un interdit qui consiste à dire que une espèce va en envahir une autre au nom de je me dois de porter secours à ce petit homme qui est en perdition. Est-ce que porter secours peut permettre de mettre en péril l'équilibre d'une totalité? Oh, mais si vous sortez ça du contexte du conte, imaginez donc, je ne sais pas moi, la famille juive reclue, cachée, Anne Frank, à qui on dit il y a encore un fils de la famille qui est tout seul, il faut qu'on le prenne avec nous. Et là on dit mais on est déjà 10 dans le petit appartement caché. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne peut pas être 11, on va être trop bruyant, puis on n'aura pas de quoi manger, puis voilà. Vous voyez? Est-ce que le 1 de plus met en péril le tout? Quand on n'est pas dans l'urgence, la question ne se pose pas. Mais quand on est dans l'urgence d'une situation et qu'il est question d'une vie, eh bien voilà, il va falloir, Kipling nous dit, il va falloir sacrifier l'équilibre du tout pour intégrer l'enfant. Tout en sachant que, ben on le sait, hein, la première apparition de Mowgli, parce que tout le monde connaît le livre de la jungle, mais la vraie histoire, c'est le conte qui fait tout juste 10 pages, la première apparition de Mowgli. Lisez ça. Et là, quand vous le lisez, vous avez Mowgli qui apparaît avec des fleurs autour de la tête. Il est en train de jouer comme un peu de la flûte dans la forêt. Il parle aux animaux. On a l'impression de voir le dieu Pan mis en scène. Et donc, il parle à la nature. C'est Virgile et les Géorgies. Hein, il parle à la nature. Il est dans la mélodie du ruisseau. Il s'adresse aux animaux. Il est de l'espèce de la nature, on va dire. Il fait partie de ce grand vivant. Et en même temps, eh bien, il a été sauvé par une louve. Il a été intégré dans un clan. Sauf que les petits loups grandissent. Et les frères, parce qu'il dit bien les frères, hein, notre ami Kipling, les frères n'acceptent pas que ce petit homme soit différent. Ils n'acceptent pas de soutenir le regard. Le grand danger pour le loup, c'est le regard du petit homme. D'ailleurs, la louve lui dit, si tu veux rester parmi nous, il faudra que tu apprennes à regarder le sol. Ne regarde pas tes frères droit dans les yeux. Parce que si tu le regardes droit dans les yeux, en tant qu'humain, tu vas vouloir asseoir une supériorité. Donc ne les regarde pas physiquement droit dans les yeux, mais regarde-les avec les yeux du cœur. L'essentiel est invisible aux yeux d'un syntaxe. Vous voyez le lien? Donc à ce moment-là, que se passe-t-il? On est dans une transposition de l'histoire. On comprend, on veut faire vœu d'humanité, ou d'animalité, humanité, on va dire. Hein. On intègre le petit qui est différent. On lui dit, attention, à un moment donné, il faut que tu restes à ta place dans le clan. Si tu en veux plus que ce qu'on veut te donner, ça n'ira pas. Tout ça, c'est la métaphore de la pater familias. Hein. Tous les enfants adoptés, souvent, c'était ceux qui dirigeaient après. Parce que si on adoptait un enfant, un fils, et qu'on en avait déjà un, c'est qu'on estimait que celui qu'on avait n'était pas assez fort pour assumer le rôle de pater. Donc vous voyez, on est toujours dans des sociétés très, comment dire, très masculines, très, très, très archaïques d'une certaine façon. Mais c'est utile à l'humanité aussi d'une certaine façon. Donc imaginons, on a dit qu'il ne faut pas regarder. Mais à un moment donné, le loup vieillit. Le chef de clan vieillit, on sait qu'il va falloir le remplacer, et le petit homme devient un problème. D'autant plus qu'il y a toujours l'espèce de tigre qui traîne, lui il a les dents longues, il a senti déjà le goût de l'humain, et lui il se dit, j'en ferai bien pour 4 heures, et à ce moment-là, ben, il y a toujours l'idée de, comment va-t-on faire pour récupérer ce petit homme, le manger, parce que moi je suis vraiment restée dans la nature non civilisée, je mange parce que j'ai faim, et je ne fais pas partie de ceux qui sont capables d'être ouverts à une humanité. Et en même temps, ce qui va sauver Mowgli, c'est qu'à un moment donné, c'est la sécheresse. Alors regardez ce qu'on aurait à apprendre là, quand même, nous. Hein. c'est la sécheresse. Il n'y a plus d'eau. Tous les animaux, girafes, éléphants, comment ils s'appellent, les lions, enfin tout ce que vous voulez, toutes les bestioles, le chacal, bref, ils marchent tous. Ils marchent tous très loin pour trouver un petit point d'eau. Et il y a un moment fabuleux que Kipling dit comme ça, il dit, et c'est ainsi que tous les animaux avaient décidé de la trêve, pour que chacun puisse boire. Première apparition du coup. Pour que chacun puisse boire. Parce qu'on ne peut pas empêcher le vital. On se battra quand on aura bu. Donc, quand la cause ne marche pas, il n'y a que l'union qui peut fonctionner. Et donc là, on est dans la mise en scène. Mowgli va se rendre compte que finalement, il n'est pas complètement de cette vie des loups, mais qu'il n'est pas complètement de la nature. Il va regarder le village d'à côté, il va comprendre qu'il peut tomber amoureux, il va comprendre qu'il est de la vie des hommes et pas de la vie des bêtes. Et à partir de ce moment-là, il obtiendra une carte de garde-chasse, entre guillemets, et il vivra toujours à la frontière entre les deux civilisations, l'homme de la nature et l'homme de l'humanité. C'est la définition d'un humain. Donc, que nous enseigne Kipling dans la première apparition de Mowgli, que par l'initiation, nous comprenons qu'il faut savoir taire ses passions, entrer dans la maîtrise de l'hubris, c'est-à-dire une forme de tempérance qui permet à l'humanité d'apparaître et de pouvoir se manifester. Et c'est là qu'est l'initiation, en fait. Là, elle se fait auprès du bois aussi, dans une forêt, dans un lieu où on pourrait dire que là-bas n'existe que les sauvages. Et donc, on va avoir la pantomime de tous ces singes qui voudraient être des humains. D'ailleurs, rappelez-vous la chanson, hein, « Je cherche un homme ». C'est un peu Diogène, hein, qui prend sa lumière et qui éclaire des visages et qui dit « Je cherche un homme parce qu'autour de moi, je ne trouve que des gens qui n'ont pas d'humanité. Donc, je cherche encore cette humanité. » Et en même temps, une fois qu'on a dit « Je cherche un homme », ben, vous avez cette fabuleuse marche de l'éléphant. Et cette fabuleuse marche de l'éléphant ben, permet de comprendre que le tout petit, ben, finalement, il a du mal à marcher ou pas. Qu'on est dans un système qui est très archaïque parce qu'il y a une moquerie un peu de l'éléphant. N'oublions pas que l'éléphant, dans la symbolique, c'est la mémoire. Et c'est les archétypes. Or, ce qui sous-tend une société, c'est quand même la mémoire et les archétypes. Donc, la mise au pas, c'est une façon de renouer avec quelque chose qui est de l'ordre de la musique des sphères, qui entre en vous et qui discipline votre corps, non pas parce que vous allez dans le tambour enflammé, mais parce que vous allez dans une marche qui discipline le corps. Et quand vous marchez au pas, vous pouvez être plusieurs à marcher du même pas, tout en étant voisins l'un de l'autre, et faire l'expérience du pas, qui sera une expérience complètement différente de ce que chacun peut en faire. Là, vous avez vécu une initiation. Vous voyez, c'est là où c'est intéressant, finalement, ce parcours que l'on peut faire, à partir des contes, pour redécouvrir non seulement une symbolique, mais vivre ce retour à soi. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai raconté cette anecdote de la musique militaire, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un des rares moments où je me discipline en marchant au pas et je renoue avec quelque chose de rigoureux en moi. Voilà. Je renoue avec le rigoureux. D'ailleurs, Saint-Exupéry, qui était avant d'être le pilote de la décollage, un militaire, disait il y a le métier d'homme et il y a la mission. Aujourd'hui, quelle est la mission de chacun d'entre nous? Comment renouer avec un monde qui, quelque part, se délite? Comment être heureux? Mon idée d'âme sereine, dans un monde où on prend de plus en plus conscience de nos vulnérabilités. Nous sommes vulnérables du point de vue des ressources de la planète, nous sommes vulnérables vis-à-vis des uns et des autres, puisque l'humanité a souffert 2 ans d'une espèce d'enfermement, de mise sous cloche, au point que certains n'ont pas renoué avec l'humanité telle qu'elle devrait être, au sens noble du terme. Comment à un moment donné refaire le parcours des contes pour revenir à cette herméneutique, comme disait notre ami Ricoeur, pour ouvrir à des significations qui nous élèvent plutôt qu'elles nous rabaissent. Alors il y a des exigences. On l'a compris. Jonathan Livingstone, il faut qu'il s'envole très haut, très loin, et qu'il joue avec les défis. De la même manière qu'Icare s'est fabriqué des ailes, va s'approcher du soleil, il ira trop loin, il va tomber. Il faut qu'à un moment donné, le rituel intègre le rite, c'est-à-dire que la cérémonie en elle-même doit être normée par un rite. Dans le conte, ça n'apparaît pas de manière aussi flagrante, mais c'est quand même l'intérêt, de manière à ce qu'on puisse comprendre que si tu es esselé et si tu penses recréer un mythe à ta façon, tu n'y arriveras pas. Il faut quand même le groupe pour qu'il y ait quelque chose qui relève de l'anthropologos, c'est-à-dire du discours rationnel sur l'humain en tant que tel. Donc si on avance, on se dit alors vers quoi, vers quel compte pourrait-on aller pour renouer avec le bon sens de la Terre? Alors je vous ai parlé de Zarathoustra, bien évidemment. Zarathoustra, c'est facile en fait. Enfin, c'est pas facile à lire. Mais non, non, mais c'est vrai, parce qu'il faut des interprétations quand même. Il faut quelques clés. Moi, je vous invite à lire la traduction de Bianchi, elle est extraordinaire. Je dis à Bianchi. Les autres, vous pouvez les laisser tomber. Quand vous lisez ça, c'est génialissime. Vous vous mettez le début de Lohengrin de Wagner, le moment où il n'y a pas d'instrument, le moment où ça ne crie pas. Et vous lisez, voilà. Quand Zarathoustra a eu 30 ans, il quitta son aigle, son soleil et sa patrie. Il se tourna vers le grand astre et lui dit « Oh grand astre, que serais-je sans toi si tu n'étais venu tous les jours m'éclairer à ma caverne ?» Ça y est, vous y êtes. La caverne, l'introspection, un soleil qui vient à vous, quelque chose qui illumine les almatata, les choses qui brillent et qu'il faut dépasser. Vous êtes dans les archétypes des idées qu'il faut savoir contempler. Ça y est, vous avez repris vos outils, vous pouvez redescendre vers la vallée. Là, il rencontre un espèce d'ermite, il dit qu'il chante, qu'il grommelle et qu'il rit. Ouais, il chante, il grommelle, il rit. Et puis à un moment donné, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais à la ville. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur enseigner le surhumain. Mais malheureux, prends-leur plutôt. Plutôt, c'est pas le chien de... Hein, okay. Plutôt, c'est prends-leur plutôt. Donc, il prend l'argent. Une fois qu'il prend l'argent, ben, il estime qu'il a son obol. Il a son obol pour nourrir son église. Et à ce moment-là, Zarathoustra repart en dansant, c'est le Dionysos hein, de la fête, qui redescend vers la ville et qui va trouver la beauté d'Apollon. Et c'est Dionysos qui dit à ce moment-là, « Mais cet homme est-il devenu fou? N'a-t-il donc pas entendu parler que Dieu est mort ?» C'est la deuxième fois que Nietzsche le dit. Il l'a dit au paragraphe 266 du Quai Savoie. « Dieu est mort » pour dire « Arrêtez de remplir le ciel de choses qui ne vous concernent plus, vivez dans l'instant présent » En bon terrien, en prise avec la terre. Et n'oublions pas que Zoroastre, eh ben c'est le philosophe de la terre, hein. C'est le peuple arien qui a marché pendant des kilomètres pour pouvoir s'installer en Iran, près du fleuve Irunde. Zarathoustra, c'est celui qui était, comment dire, animé par Ahura Mazda, la divinité mi-homme, mi-femme, et qui engendre le bon sens de la terre. Il dit que la terre pleure parce que nous ne savons pas la louer. Et vous lisez les Gathas, il y a 17 chants qui sont absolument fabuleux. C'est ça le Zarathoustra. Il faut renouer avec le sens de la terre et enseigner le surhumain. Qu'est-ce que le surhumain? Initiation. Ça y est, nous commençons à monter vers les crêtes. Au moment où on commence à monter, tous les jaloux, tous les envieux, tous les malhonnêtes, tous... Allez, on va parler en Nietzsche. Hein. Tous les incompétents et les médiocres. Vous chopez les chevilles pour pas que vous montiez. Alors là, vous donnez des coups de talons, bien sûr, pour pouvoir arriver sur les sommets. Et d'y philosopher, c'est atteindre les crêtes. Une fois que vous êtes en haut, vous avez développé votre surhumain, c'est-à-dire votre capacité à vouloir vous améliorer, vous perfectionner, grandir sans retomber vers les artifices des béquilles. Hein, la religion, enfin toutes ces choses. Et une fois que vous êtes là-haut, ça y est. Et là, Nietzsche vous rappelle, si vous cherchez la foule, vous la trouverez plus. Parce que ce travail-là, c'est un travail d'effort sur soi. Ça y est, l'initiation. De travail sur soi. Il dit comment faire pour arriver là-haut. Il dit, il faut être égoïste. Et là, il redéfinit l'égoïsme comme étant quelque chose de positif. L'égoïsme, quand on est dans un marasme, le nivellement par le bas, quand tout le monde est là, c'est de pouvoir dire, je ne veux pas de ce marasme et de ce nivellement par le bas. Je vais travailler, je vais m'efforcer moi-même pour me perfectionner et arriver sur les sommets. Et il dit, à un moment donné, on sera seul. Puis de temps en temps, on croisera quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, ça y est, on pourra renouer avec une part, entre guillemets, d'excellence, de volonté, qui nous permettra de nous sublimer. Voilà ce que nous enseigne Zarathoustra. Donc dans le fond, c'est assez fabuleux. Et puis il y a des contes. Voltaire, on ne peut pas ignorer Voltaire. Alors Voltaire, il est d'une certaine manière génial et en même temps assez agaçant. Vous voyez, quand il vous parle de ce Candide. Moi, j'adore le Candide. Pourquoi un Candide devrait passer pour un idiot? Moi, j'aime bien faire le Candide, parce que souvent, le Candide, c'est celui qui initie à plein de choses, qui pose des questions avec une forme de candeur, ça porte bien son nom, parce que justement, c'est comme Socrate qui utilisait l'ironie, et bien là, la candeur est une manière de mettre en scène le questionnement qui va déranger. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, il y en a un qui préfère cultiver son jardin. C'est-à-dire que la mise en scène de l'enclos dans le jardin, fait qu'à un moment donné aussi, on entre dans une chute vers la passivité. Vous voyez, on tombe dans le puits. Mais au lieu de se rendre compte qu'on est couché, qu'on regarde vers l'extérieur, au lieu de regarder en dessous, on est en train de descendre progressivement vers la passivité, parce que dehors, ça s'écharpe, ça meurt de maladie, du tremblement de terre, de la bataille de ceci, de la bataille de... Et pendant ce temps-là, je cultive mes rosiers. Tout va bien dans le meilleur des mondes, comme dirait Leibniz, si possible. Ça veut dire si chacun y met du sien, si on a la possibilité d'améliorer cette humanité qui est en marche. Alors Voltaire, il est brillant, parce que quelque part, il nous dit, on ne peut pas être indifférent à un monde, on ne peut pas être indifférent aux choses qui se passent, on ne peut pas être dans le déni. Et là, la métaphore du jardin est fabuleuse, parce que quelque part, elle nous rappelle qu'il ne faut pas rester enfermé sur soi et développer ou cultiver que son intériorité. Mais en même temps, on est tenté de retourner à Saint-Exupéry. Saint-Exupéry nous dit « Moi, j'aurais aimé être jardinier. » Pas parce qu'il avait oublié le sens du monde, mais parce qu'il dit que finalement, le vrai jardinier, ben, il a le sens de la terre. Il produit puisqu'il cultive. Il est capable de mettre en scène une forme de beauté. Il agence son jardin. Il est aussi celui qui ouvre à une sorte d'esthétisme puisqu'il est dans la contemplation. Et donc, d'une certaine façon, ben, le jardin discipline l'humain, à défaut de discipliner la terre qui va rendre les fruits ou rendre les fleurs de la façon dont on aura fait la composition. Donc, si on entre vers l'herméneutique, qu'est-ce que l'herméneutique? C'est la façon pour un symbole d'ouvrir à une autre signification. Rappelez-vous, symbolium, c'était au départ des histoires de pièces en terre cuite, on coupait en deux, et ça avait valeur de contrat. Si j'avais un terrain qui à la limite était ici, vous étiez mon voisin, je vous donnais la moitié de mon morceau. Si un jour je voulais donner ma terre à quelqu'un, je lui donnais le morceau du symbole, et quand il venait, si ça coïncidait, le contrat continuait entre les deux personnes, et moi j'allais vivre ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, j'ai une partie qui fait sens pour moi, mon terrain. Il a une partie qui fait sens pour lui, son terrain. Et entre nous deux, il y a une partie qui apparaît, c'est la frontière ou la délimitation. Or, aujourd'hui, on a un problème de délimitation. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un mot moderne qui est le terme d'hybridation, qui consiste tout simplement à vous dire partout qu'il y a une porosité des frontières. Or, est-ce que la porosité doit avoir un statut dans notre monde? Il peut y avoir des transdisciplinarités, il peut y avoir de la symétrie, il peut y avoir de la conception vis-à-vis de la complexité du monde. On est d'accord? La porosité, c'est presque un défaut. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous arrivez avec un avis et que vous êtes toujours en train d'absorber comme une éponge l'avis de l'autre, vous n'êtes pas capable finalement de vous forger votre idée. Donc que fait le symbole? Il vous montre qu'au moment où vous réunissez les deux pièces et vous pensez avoir saisi, en réalité vous n'avez compris qu'un morceau et qu'il va falloir vous projeter un peu plus loin par une construction de l'esprit pour pouvoir aller au symbole suivant. Et vous vous rendez compte que la porosité n'est jamais possible puisqu'à chaque fois, le symbole est recomposé. Chaque fois, il vous montre que vous venez d'accéder à un palier, mais vous n'êtes pas à l'étage supérieur, vous n'êtes pas sur le balcon. Donc, vous devez poursuivre votre quête. Pas de porosité, juste il faut continuer. C'est la métaphore du fou qui marche. C'est la métaphore de ce fou dansant, comme disait déjà quand il mettait en scène la musicalité, on va dire, ainsi par les Zarathoustra. Et donc, ça veut dire que dans le conte, dans la métaphore du conte, on retrouve toujours la mise en scène rituelique qui est camouflée. Camouflée pour montrer qu'il faut s'élever. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut sortir de l'enfantillage qui consiste à regarder le conte qu'avec les yeux de l'enfant qui se nourrit déjà d'une forme d'initiation. On lui enseigne les premières valeurs, on va dire. La valeur du partage, la valeur de l'amitié, la valeur de la parole donnée. On le sait bien. On envisage aussi l'idée, dans les contes pour enfants, on a... comment dire, le conte soufi qui a été adapté de la Belle au bois dormant. Donc on s'imagine la belle endormie, le chevalier qui arrive. Alors lui, on ne sait pas d'où il sort. Hein. Pataclop, pataclop, soi-disant il est magnifique. Il sort de la forêt avec un beau cheval. Il la trouve là, comme sidéré par la beauté de la belle endormie. Là, la métaphore, elle va loin quand même. Hein. Il faut chercher, hein. Il faut chercher. Et on se rend compte que finalement, si on ne passe pas ça dans le rapport à une extériorité entre un homme qui pourrait rencontrer une femme est tombé sidéré face à elle, ce qui aujourd'hui se perd de plus en plus. Hein. La sidération, on n'a plus le temps de la voir. Hein. On scrolle aujourd'hui. Hein. Donc, c'est Tinder. Donc Tinder, ça a ses limites. Hein. Le chevalier transi, on ne le voit pas vraiment. Hein. Et on se dit, en fait, la métaphore, elle est particulière. Elle est métaphore à quel niveau? Elle est métaphore au moment où on se dit que la belle endormie, c'est une partie de soi. Et que nous sommes aussi le chevalier. Si je comprends qu'il a fallu que je traverse des contrées, avec des périls, des dangers, c'est l'expérience que je fais de la vie. Et qu'à un moment donné, je me trouve dans la petite clairière où je trouve la belle endormie, ça y est, je viens de trouver le fond de ce que je suis. Et ce fond que j'ai trouvé, finalement, vu qu'il est tourmenté par le bruit de la vie, eh bien, il s'est endormi sur lui-même. Et il faut savoir renouer avec cette partie de soi qui est enfouie, cachée, pour pouvoir, en fin de compte, redonner du réenchantement à notre âme et redonner, en fin de compte, un souffle à la volonté. Et c'est le baiser qui va permettre ça. Parce que le baiser, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un souffle, l'atma, âme du monde. Donc il faut se régénérer par le souffle, l'atma, pour pouvoir se réconcilier avec cette nature intérieure, pour ensuite pouvoir repartir dans la forêt et la voir autrement que par des démons qu'on doit anéantir ou qu'on doit terrasser. Et là, on se dit, mais oui, ça y est, quand dans tous les contes, on nous demande de revenir à soi, quand il faut aller chercher. Mais quel est le philosophe qui, sans l'aspect du conte, nous amène à cette vision-là? Hormis que lui, il y ajoute du divin, c'est notre ami saint Augustin, dans les Confessions. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça grouille de bruit. J'ai toujours en moi une espèce de fourmillement intérieur. Je suis toujours passionnée. Et il y a des passions qui sont belles, mais il y a des passions qui font mal en soi. Des passions dans lesquelles on ressasse l'envie vis-à-vis d'autrui, la jalousie. Il y a des passions, la peur, c'est quelque chose de terrible. Vous avez aussi la timidité, c'est la peur de soi devant les autres. C'est-à-dire que c'est même pas l'ennemi, il n'est pas devant vous, c'est vous-même l'ennemi. Voyez ? Donc toutes ces passions dévastatrices, pâture, je subis, je sombre dans la passivité. Ben fait qu'à un moment donné, je suis agi par l'extérieur, ou à un moment donné, je suis tellement fixé que je m'endors au fond de moi. Cet être passionné qui peut remonter à la surface, ben c'est celui qui est, comment dire, le pathologique. Donc qu'est-ce que nous dit notre ami saint Augustin? Il faut savoir retourner en soi. Une fois qu'on est retourné en soi, faire taire cette nature imbécile qui parle, qui est dans les vanités, qui parle, qui est dans ses passions, dans le tumulte de choses qui ne la grandissent pas. Et c'est à partir de l'antichambre de nos pensées. Vous voyez, ça y est, on a le puits, il n'est plus en profondeur, il est à l'horizontale maintenant. Il faut aller derrière. C'est dans l'antichambre de nos pensées, dans le grand silence intérieur, que peut surgir la voix. La voix du divin, saint Augustin, mais ça peut être aussi la voix du Tao. Ce que nous enseigne Winnie l'ourson, c'est cette voix intérieure qui nous grandit à nous-mêmes et qui fait que qui veut suivre sa voix, écoute la voix. Ce qui veut dire que Bergson nous rappelait la mélodie intérieure, si on sait renouer avec cette rythmique qui est la nôtre, eh bien on vit en bonne santé, on est en accord avec soi, et on est directement dans le jardin intérieur où on correspond, on coïncide avec cette musicalité qui est la nôtre. En fait, je regarde l'heure, pour vous... oui, il faut que j'arrête, hein. En fait, parce que j'en ai plein d'autres que je peux vous citer, mais bon, là-dedans, il faut respecter l'estomac, il vous dit. Et donc, on se retrouve dans une situation où vous avez bien compris que quand je parle de rituel, avec une sorte d'agacement en disant « et le rituel dont on nous parle en permanence », il faut savoir qu'il y a de nombreuses œuvres qui nous ouvrent à des rituels en permanence et que d'une certaine façon, si on se détourne du rituel classique, parce que j'entends aujourd'hui beaucoup de gens dire « oui, les gens ne vont plus à l'église, donc ils n'entendent plus le rituel dans lequel on met en scène » prenez, c'est le corps du Christ, buvez, c'est le sang. On dit qu'on ne met plus en scène, donc on ne se discipline plus. La laïcité permet, à travers les contes, de discipliner le corps à la manière de ce que le ferait une religion, au sens de religuerie. Donc, tout à l'heure, je parlais de choses éparses. Maintenant, on comprend que le rituel du rituel qui est mis en scène dans les contes, c'est ce qui nous permet de renouer avec notre intériorité, ce qui nous permet de renouer avec les interprétations et avec la fugacité de l'interprétation de l'autre, que je ne comprends pas. Mais si je ne le comprends pas, il faut que j'accepte qu'on ne se comprendra jamais.
puisqu'il dira son expérience, il va la narrer avec le fruit de son vécu, et je narrerai la mienne avec le fruit de mon vécu. Et j'ai pas envie qu'on me dise, mais non, tu l'as pas vécu. J'ai pas besoin d'un dogme qui vient me dire comment je l'ai vécu. Et c'est parce que chacun, on narre sa propre histoire, et que finalement, la mélodie que l'autre me joue, finalement, la façon dont il me narre son histoire à sa façon, enrichit la mienne en me disant, moi, je l'avais pas vu, je l'avais pas perçu comme ça. Et c'est peut-être parce que cette construction mutuelle de l'enrichissement par la différence de l'autre, fait qu'à un moment donné, eh bien, la mise en scène, on va dire, de cette initiation peut porter ses fruits dans cette humanité qui serait en quelque sorte éparse, isolée, sourde à elle-même. C'est comme ça, je pense, qu'il faut l'entrevoir. Et à partir de ce moment-là, ben, ça y est, on a renoué avec notre histoire, on a renoué avec l'herméneutique, et on a compris le sens, on va dire, de cette humanité, et on se retrouve tel incisif. Sisyphe a roulé sa pierre, Sisyphe a compris qu'il détenait sa destinée, Sisyphe est mis en scène dans un conte métaphore du mythe qui est celui qui est condamné à l'éternité à rouler une pierre absurde, et à la fin, Camus nous dit, il faut s'imaginer Sisyphe heureux. Voilà. Parce qu'il a fait de cette histoire une histoire qu'il s'est appropriée. Un conte n'est efficace du point de vue de son rituel intérieur qui est masqué que si il est en coïncidence avec ce que je suis, pour parvenir à une forme de sérénité, et donc c'est ça le bonheur. Voilà. Il faut s'imaginer Sisyphe heureux. Et rappelez-vous, il est heureux sous une voûte étoilée.
Merci Laurence. Tiens. Ça passe toujours trop vite avec Laurence. Effectivement, tu nous as nourri mentalement. Il faut maintenant se nourrir physiquement. Et voilà. Quel plaisir de t'écouter. C'est toujours beau et facile quand on t'écoute, et si compliqué quand tu n'es plus là. Et effectivement, on était venu pour du Laurence Vanin, entre guillemets, et on a été servi. Alors, je voulais te rassurer que tu repartes sereine et heureuse. Je pense que vu la prestation, on sera réinvité l'année prochaine. Donc tu as été largement à la hauteur et franchement merci pour ce brillant exposé. Alors, pour lancer les questions, s'il y en a quelques-unes, j'ai cherché une question en lien avec ton nouveau livre et l'intervention que tu viens de nous livrer, et j'aurais une question intime à te poser. Est-ce que tu as l'âme sereine quand tu lis un conte, et quelle lecture te rend heureuse, celle qui est naïve et légère, qui te distrait, ou celle qui est déchiffrée et qui te fait rechercher toute l'interprétation et les références qui te permet de décrypter? Où vas-tu chercher laquelle de ces lectures te plaît le mieux?
Moi, je décrypte. C'est un truc, c'est même fou. Je veux dire, c'est fou. Je lis un livre, je ne peux pas le lire normalement. D'ailleurs, je ne lis jamais un livre, je lis 5 livres en même temps, sinon je m'ennuie. Donc là, c'est un truc de fou, ça. Donc, il faut que je décrypte. J'ai des mots qui apparaissent et je me dis, mais ce sens-là, il n'est pas posé là comme ça, c'est pas du hasard. Et en fait, j'ai l'impression d'une coïncidence et je me dis, j'ai l'impression que si je ne vais pas chercher plus loin, je trahis l'auteur qui m'a transmis le mot. Voilà. Et je me dis, il a choisi ce mot, c'est un peu de la philologie, je me dis, s'il a choisi ce mot, c'est qu'il voulait nous dire quelque chose. Et je m'en suis rendu compte avec Saint-Ex, en fait. Parce que quand il dit « dessine-moi un mouton » et qu'à la fin, bah, j'arrive à ce fameux mouton robine, robiné, et donc il faut réouvrir la source de l'humanité qui s'est tarie, et qu'en Provence, les robinets étaient en tête de mouton, et qu'il y a une fontaine sur la propriété des Saint-Ex avec un robinet en tête de mouton, je me dis donc, quand un type, quand j'étais enfant, mon père m'avait offert ce livre, et que je lis ça, et je me dis, mais n'importe quoi, le type qui tombe avec un avion, il ne vous demande pas un avion, des vivres, amenez-moi une jeep ou un chameau que je me casse de ce désert. Et le mec, il dit, dessine-moi un mouton. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Mais j'étais révoltée quand mon père m'a fait lire ce livre. Je dis, en plus, le gamin, il meurt à la fin, c'est un garçon, il veut ma mort. J'en ai voulu à mon père. Je dis, mais il est fou. J'avais dit, moi, mon grand-père, il est tout. D'ailleurs, moi, j'ai eu des malheurs de souffle. Hein. Ils ont compris dans la famille. Ils ont dit, on va y mettre une petite fille là, qui fait des bêtises, sert à mieux. Et quand j'ai relu Le Petit Prince et que j'ai écrit donc, les 2 livres sur Saint-Ex, c'est venu de ça. Je me suis dit, Saint-Ex qui est si cohérent, qui est militaire, langage codé pour tout, la rose c'est Wesley Morin, le renard c'est Léon Woerth avec en même temps Guillaume et machin. Je me dis, le mouton ça a forcément un sens. Et quand je l'ai élucidé, la famille, la première chose qu'elle m'a dit, la famille Saint-Ex, puisque le neveu a préfacé, m'a dit, vous avez rendu à Saint-Exupéry ce qu'il voulait nous dire. Et heureusement que vous l'avez fait, parce que tout le monde enseigne ce livre sans dire ce que Saint-Exupéry a voulu dire. Ah ben quel soulagement, je me suis dit quand même. Et à chaque fois maintenant que je lis un livre, je cherche ce que, quand le mot résonne, ce que l'auteur a voulu nous dire, et que nous, parce qu'on est pris dans notre civilisation, parce qu'on lit avec légèreté, on ne se donne pas la peine d'aller chercher. Voilà. Et je me dis, il faut. Et mes livres dans ma bibliothèque sont un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je lis mes livres et je me dis un jour je ne serai plus là, mes livres iront je ne sais pas où, j'écris à côté en marge au crayon, attention, les lignes à venir sont abominablement difficiles à comprendre. Puis un peu plus loin, je dis, ça y est, vous avez passé les pages, vous êtes sorti d'affaires. Puis un peu plus loin, je dis, le sens, il était là. Je m'éclate à dire aux gens, moi quand j'ai lu, j'ai posé le bouquin, j'avais un mal de crâne pas possible, j'avais les neurones qui transpiraient. Et en fin de compte, j'explique aux gens, oh là là, prenez votre mal en patience, là il y a 10 pages, c'est le bourbier. Et je me dis, mais si quelqu'un l'avait fait pour moi, quand j'ai lu le bouquin, j'aurais pas été à la natation comme ça, avec la brasse collée. Et voilà, c'est un décryptage. Voilà, c'est, je peux pas dire plus.
Merci. Alors les jeunes ont Hugo décrypte dans les réseaux sociaux et nous on a Laurence décrypte. Voilà. Ah voilà, si vous avez des questions, oui, s'il vous plaît.
Par rapport à ce que vous venez de dire, à beaucoup de choses, est-ce que vous pensez vraiment que tous les auteurs ont des choses comme ça cachées qu'il faut décrypter? J'ai quand même un petit doute.
Je vais vous parler de mon expérience qui va vous paraître abominable parce que c'est tout à fait humble ce que je vais vous dire. J'ai écrit, là je publie mon 23e livre, donc je peux commencer à dire que je sais un peu ce que c'est qu'écrire. Voilà, bon. Et je le dis vraiment avec, parce que je ne me dis jamais écrivain moi, en parlant de moi. Je m'essaye, j'y suis essayiste, donc vous voyez. Bon. J'ai commencé un roman il y a 4 ans. Ça s'appelle Au point du jour. Je ne sais pas quand je le terminerai, mais c'est un jeu d'écriture de style. Ce livre-là, je me suis dit, il sera réussi ou il ne sera pas publié. Ce livre-là, je pèse tous les mots pour que les mots aient une sonorité. Mais c'est du roman. C'est-à-dire que le coup, c'est de se dire, celui qui le lira soit embarqué dans l'histoire, soit il ne le sera pas. C'est pas grave. Par contre, quand on écrit un conte qui suscite la métaphore, ou quand on écrit les livres de philo ou des essais, je ne lis que des essais, parce que je n'ai pas le temps du reste, tout est absolument construit. Et j'ai commencé il y a un an un polar. Et c'est, je suis en train de faire une transposition de quelque chose d'hallucinant, je ne veux pas trop vous en parler, mais bon, voilà. Et en fait, je me rends compte que tout est construit. Donc, tout ce que je mets en scène, je le mets en scène de telle façon que si on cherche pas derrière les mots, on ne trouvera pas la solution entre guillemets des lignes. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien. Donc je pense que voilà, derrière l'auteur, il y a celui qui est enflammé, passion du cœur, on écrit le livre et on narre quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et c'est une expérience que chacun se réapproprie et fait ce qu'il veut de cette histoire. Et puis il y a celui qui construit son texte, qui veut mettre des choses, et qu'on ne peut pas trahir en décryptant pas. Donc je réponds un peu...
Oui, dans le conte finalement, chère Laurence, est-ce que c'est comme dans la musique, est-ce qu'on n'embellit pas les choses pour séduire? Je pourrais détailler, mais moi j'ai un peu ce sentiment.
Ben, moi dans tous les contes, je ne sais pas vous, mais quand j'en lis un, à chaque fois presque je pleure moi, à la fin, pour me séduire. Je lis le petit prince, à la fin on voit le petit prince... qui tombe comme ça et dit j'aurais l'air d'être mort mais je serais pas mort, hein. Après on file avec une étoile, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle est revenue. Bon voilà, ben vous pleurez, vous lisez non mais c'est vrai, vous, souvent c'est ça, hein. Vous lisez je sais pas, il y a l'autre conte, même le livre de la jungle, finalement à la fin c'est une forme de déchirement, il est abandonné par les loups, parce qu'après donc il y a l'apparition de l'oubli, il y a le livre de la jungle 1, le livre de la jungle 2. Dans le livre de la jungle 2, il est abandonné et par les loups et abandonné par la communauté des hommes, puisqu'il n'en fait pas partie. Donc on a un moment vraiment où on
je parlais des contes qui finissent bien.
Mais vous en trouvez des contes qui finissent bien?
Oui, quand elle trouve la fée trouve son prince charmant et qu'elle
c'est
se
marie... C'est peut-être
et...
le début des emmerdes.
Qui dure beaucoup d'enfants.
L'histoire ne nous le dit pas. Mais pour un romantique, oui, ça fait du bien. Pour une pessimiste lucide, c'est
comme ça. Voilà, une dernière question.
Grâce à toi, c'est à propos de la musique militaire.
Ouais.
Alors moi, j'étais un anti-militariste, je reste un anti-militariste à fond, puisque j'ai essayé de me faire réformer. J'ai fini par être embarqué par l'institution. J'ai réussi à ce que, avec un petit grade, quand on m'a monté, j'ai été cassé, j'ai fait du rap, tout ça pour dire que vraiment, je suis anti-militaire, anti-militariste. Et pourtant, comme toi, quand je regarde un défilé militaire, avec des marches militaires et musique militaire, je suis complètement, comme toi, je vais presque marcher aux pointes. C'est exactement la même sensation que tu ressens, toi. Et j'ai compris, à travers de tout ce que tu viens de dire, que probablement, que j'ai besoin de rigueur et de discipline. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et à l'époque, je ne me sentais pas ça comme ça.
Il y a deux anecdotes que je peux vous raconter. La première, parce qu'on est entre nous, hein. La première, c'est que la musique militaire, moi, je l'ai découverte, donc j'étais sapeur-pompier pendant 10 ans, donc j'ai défilé au 14 juillet. Mais je connaissais déjà la musique militaire avant, parce que mon papa était dans la marine, forcément, la musique militaire, même si mon père n'était pas un militaire, vous voyez, très militaire dans sa tête. Mais bon, on savait ce que c'était qu'un 14 juillet, on savait ce que c'était qu'un musique militaire. Et donc j'ai un peu été initiée à ça dans l'enfance, on va dire. Mais surtout, quand j'étais sapeur-pompier, le 14 juillet, c'était important. Puis j'ai fait du parachutisme avec le 2e REP à Calvi, j'ai fait Cameroun. Et je me suis vue à la popote des Caporaux à boire de la bière avec des légionnaires. Et je me suis rendu compte, on était tous debout à chanter. Tous debout à chanter. Et la musique militaire, le chant militaire, c'est un égrégore en soi. Et puis ça m'a ramené au bonnet phrygien. On va arriver là aux Jeux Olympiques, les trois quarts du temps, les gens ne savent pas ce que c'est que le bonnet phrygien. C'était un gant qu'on imbibait du sang du bœuf qu'on avait sacrifié. Et on enduisait le sang du bœuf tous les militaires qui allaient partir à la bataille pour qu'ils soient frères de sang à la bataille. Et ils en font une mascotte pour les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a quelques incultes qui ont dû oublier quelques petits trucs au passage. Mais peu importe. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, toute cette musique, tout ce lien à l'égrégore militaire est pour moi quelque chose qui nous transporte au même titre qu'un opéra. Donc ça, c'est une des premières choses. Et deuxième chose, c'est la mise en scène. Les parents m'ont raconté, parce qu'après, je m'en suis rappelé, mais ne pas complètement oublié, je devais avoir 6-7 ans, je mettais en scène, et c'est toujours un de mes plus grands rêves, je mettais en scène mon entrée à l'Académie française. J'avais 6 ans, j'avais invité mes copains et mes copines d'école à mon discours d'entrée à l'Académie française. Ils m'ont tous pris pour une dingue. Eh bien, je vous assure un truc de fou. C'est dommage qu'à l'époque, on n'avait pas les caméscopes, tous ces trucs-là. En fait, j'avais invité tout le monde, j'avais mis mes poupées, tout le monde était là. Et moi, je m'étais affublée d'un uniforme que j'avais fait dans un sac en papier de supermarché, vous savez, qu'on avait avant. J'avais tout là. Et il était vert, bien entendu. J'avais ma canne avec mes ornements, un loup, une fleur de lys et une chouette. Non, mais un truc de fou. Et j'ai fait mon discours d'entrée à l'Académie française. Et donc, bien évidemment, en faisant ça, je me mettais en posture de littéraire. Alors qu'à l'époque, on disait que je ne savais pas écrire, que je n'étais pas... Voilà. Et j'ai fait ça plusieurs années. Et mes parents m'ont dit, tu te rappelles que quand tu étais enfant... Et quand j'ai vraiment lu beaucoup de livres de philo et beaucoup de grands auteurs, je me suis dit, mais oui, l'Académie française, il faudrait que j'y aille. Je voudrais rentrer à l'Académie française. Alors il y en a un qui m'a dit, bah, tu sais, les journées du patrimoine, tu peux aller visiter. J'ai dit, malheureux, je ne veux pas aller visiter. Je veux rentrer à l'Académie française. Et un copain me dit, putain, mais toi alors, hein, tu manques pas d'air, hein, l'Académie française, rien que ça. J'ai dit, mais tu sais pourquoi? Je voudrais être dans le siège, là, m'asseoir, reluquer de côté et me dire, putain, là, il y avait Bergson. Il m'imaginait Bergson en train de composer ses mots. J'aimerais me tourner voir Yourcenar, voir Victor Hugo. J'ai dit, moi, je veux y aller pour ça. Pour faire partie de l'égrégore des écrivains. Et j'ai rencontré un académicien, je lui ai dit, parce que j'avais écrit à Giscard, j'ai écrit à tous ces gens pour la découverte, pas m'aider à rentrer à l'Académie française, bien entendu, ils m'ont pas calculé. Et je lui dis, moi j'étais enfant, je faisais ma cérémonie. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a regardé, il m'a dit, oui, ben voilà, écrivez un livre, déclaration d'amour à l'Académie française. Et il me dit, quand vous nous aurez envoyé le livre, on verra. Alors je me suis dit, ok, mais alors je vais écrire déclaration avec un S, d'amour avec un S, parce que je n'ai pas déclaré mon amour qu'à l'Académie française. Il m'a dit, soit, faites comme vous voulez. Et je me suis dit, ah oui, oui, alors ce n'est que ça finalement, une déclaration d'amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est, voilà. Et pourtant, c'était mise en scène par un rituel. Donc quand je serai prête, j'écrirai ma déclaration d'amour et on verra bien. Voilà. Mais c'est quand même fou, vous voyez. Et ça, c'est mes parents qui m'ont rappelé. Je me suis dit, oui, effectivement, je me revois encore avec mon écharpe, avec mes feuilles de... Alors moi, comme je m'appelle Laurent, ça venait de laurier, j'avais mis quelques lauriers au milieu des oliviers. Et je m'étais... ouais, non, mais c'est un peu fou, hein. Et mon introduction. Donc vous voyez, et c'est vraiment humble, je vous en parle, pas parce que je voudrais avoir les honneurs de l'Académie française, mais pour pouvoir être de ce milieu-là et les imaginer en pleine séance.
Voilà. Oui, merci à vous. On va arrêter. Merci. Merci pour votre écoute studieuse et pour merci. La belle intervention de Laurence. Et on vous souhaite un bon appétit et rendez-vous à 14h avec également d'autres stars des Imaginales, Jacques Ravenne et Éric Giacometti. Merci, au revoir.